sur ce sujet, sur ce thème. Et je vais commencer par le commencement. Bien sûr, il nous faudrait peut-être commencer par donner une définition de ce qu'est le discernement. C'est quoi discerner ? Mais par définition, le discernement, c'est l'action qui consiste à discerner. Alors là, la palisse n'aurait pas dit mieux. Mais le verbe discerner vient du latin discernere. Et quand on regarde le discernere, eh bien, se traduit par le fait de séparer, mettre à part, se traduit par le fait de distinguer les choses. Et finalement, le discernement, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui nous permet de distinguer les choses, de bien les apprécier, de les juger avec clarté, avec justesse, selon leur nature et à leur juste valeur. S'il fallait peut-être donner ce matin quelques synonymes au mot discernement, je vous dirais par exemple compréhension. Le discernement, c'est aussi avoir cette clairvoyance, cette compréhension. Du bon sens, c'est aussi un synonyme du mot discernement. De l'intelligence, de la perspicacité, de la clairvoyance, de la sagesse, etc., etc. Alors soyons honnêtes, le discernement, ce n'est pas quelque chose qui est inné au-dedans de nous. On ne naît pas un jour avec le discernement, là, avoir la science infuse, non. Mais je crois que plutôt que ce discernement est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert, j'ai envie de dire qui va même se développer au fil du temps, par l'expérience, par la sagesse. Et justement, j'aimerais voir avec vous trois moyens que le Seigneur met à notre disposition. Trois moyens que le Seigneur met à notre disposition, au travers desquels nous pouvons justement faire en sorte que ce discernement se développe au-dedans de nous. Est-ce que vous voulez connaître ces trois moyens ? J'ai entendu un petit amen. Trois, juste trois. La liste aurait pu être plus longue, mais commençons par le commencement et quelque chose de très simple. Finalement, nos sens naturels sont déjà un moyen pour nous aider à pouvoir discerner. Vous savez tous que nous avons cinq sens. Alors aidez-moi, il y a d'abord le toucher, qu'est-ce qu'il y a encore ? Le quoi ? La vue, l'odorat, Sylvain, aide-moi encore. Louis, pardon ? Et le goût. Cinq sens. Eh bien, par définition, et ça c'est aussi une autre définition du discernement, le discernement c'est quoi ? C'est la faculté de reconnaître distinctement les choses en utilisant activement nos cinq sens. Bien sûr, accompagné de notre intelligence. On réfléchit, on va observer quelque chose, puis on va y ajouter un peu d'intelligence, un peu de jugeote, excusez-moi l'expression, et puis après on arrive à discerner pleinement les choses. C'est ce que confirme d'ailleurs Job dans son livre, au travers d'une question qu'il va poser à ses interlocuteurs, entre autres ses trois amis. Et regardez ce qu'il dit dans Job chapitre 12 et le verset 11. Job chapitre 12, verset 11. Il va dire... L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments ? Eh oui, l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles ? Autrement dit, l'oreille arrive à distinguer, à discerner les paroles qui sortent de la bouche d'une personne. Je ne sais pas si vous le savez, il n'y a pas une seule voix qui se ressemble. Nous avons tous une voix unique. C'est pour ça, j'ouvre et je ferme la parenthèse très rapidement, notre prière sera toujours unique aux oreilles de Dieu. On pourrait dire, voilà, les autres, comme d'habitude, ils ont prié, moi, je prierai plus tard. Mais oui, mais ta prière, ta voix est irremplaçable. Chaque voix, ici-bas, cette terre, on est maintenant 7 milliards d'habitants, chaque voix est unique. Et je me suis un petit peu renseigné sur la question. Les gens qui se sont penchés sur la chose ont reconnu que chaque voix est caractérisée par quatre éléments. Il y a son timbre, le timbre de la voix, l'intensité de la voix, l'intonation de la voix et le débit. Il y en a un qui parle plus que d'autres. Et ça, c'est important à pouvoir souligner. Voilà un sens par lequel le Seigneur nous invite à pouvoir développer notre discernement. Quand on lit, prend le livre des Cantiques des Cantiques, qui a déjà lu ce merveilleux livre ? On voit cette jeune femme amoureuse, cette Sulamite, qui à deux reprises eh bien, va exprimer la chose suivante. Elle va dire « c'est la voix de mon bien-aimé ». Et on voit bien que cette jeune fille amoureuse eh bien, de son fiancé eh bien, sait reconnaître la voix de son fiancé parmi tant d'autres. Et je fais un parallèle avec nous-mêmes. Nous, Église de Jésus-Christ, on a besoin de reconnaître la voix du Seigneur, la discerner parmi tant d'autres. Jésus, le bon berger, n'a-t-il pas dit que ses brebis eh bien, le suivraient et reconnaîtraient sa voix? Quand on dit, ben, je ne sais pas si Dieu m'a parlé. Vous savez, quand Dieu nous parle, et parce qu'on a l'Esprit de Dieu, on sait reconnaître quand Dieu nous a parlé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le Saint-Esprit nous atteste que c'est bien lui qui nous parle et qu'il est en train de nous montrer une direction ou une autre. Si nous nous exerçons à écouter la voix du Seigneur, nous n'aurons pas de peine à pouvoir distinguer parmi tant d'autres et surtout eh bien, à obéir à cette douce voix du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un exemple. On a parlé de l'oreille, mais on aurait pu parler aussi de la vue, qui fait partie aussi de nos cinq sens. Jésus en fait allusion à un moment donné lorsqu'il s'adresse eh bien, à ses chefs religieux qui sont venus au devant de lui avec une question. On peut lire eh bien, cette rencontre dans Matthieu chapitre 16 du verset 1 à 3. Je vous laisse le temps de chercher cet autre exemple. Matthieu chapitre 16 du verset 1 à 3 et nous lisons ensemble. Matthieu chapitre 16 du verset 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Verset 2, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Et Jésus leur fait cette remarque, « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Et quelque part, Jésus leur faisait une remarque, même un reproche à ses chefs religieux, qui étaient, c'est vrai, on l'a lu, capables de pouvoir discerner quelque part la météo, discerner quel temps il ferait juste en observant l'aspect du ciel. Mais à l'inverse, ils étaient incapables de discerner les signes des temps. Alors que, vous l'avez vu avec moi au début du texte, ils ont demandé à Jésus, mais montre-nous un signe. Ils avaient un signe flagrant devant leurs yeux. Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus, le fils de Dieu, était devant eux. Et ils n'avaient pas des yeux pour voir. Ils n'avaient pas ce discernement pour reconnaître en Jésus, eh bien, le fils de Dieu qui est venu en chair et qui a marché parmi les hommes pour non seulement nous sauver de nos péchés, mais aussi nous accorder la vie éternelle. Pourtant, tout était eh bien, là pour rappeler que Jésus est celui qui a accompli parfaitement les prophéties de l'Ancien Testament à la lettre. Une vierge deviendra enceinte. Voilà le signe que Jésus enverra. Vous lirez ça dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et ce signe eh bien, s'accomplissait devant leurs yeux, mais ils ne l'ont pas voulu le reconnaître. C'est pour ça que Jésus a pu eh bien, leur dire qu'il était hypocrite. Il ne voulait pas reconnaître ce signe. La Bible est claire et c'est l'évangile de Jean qui nous le dit. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et je bénis le Seigneur parce qu'un jour, cette lumière s'est présentée à nous et nous avons su accueillir cette lumière au-dedans de nos cœurs, afin qu'elle puisse éclairer tout coin ombragé de nos cœurs et nous apporter cette lumière, lumière de la vie, cette lumière divine, que Dieu soit béni. Et cette lumière, c'est Jésus. Les chefs religieux et toute la nation juive avec n'ont pas voulu discerner Jésus. Au contraire, ils ont livré Jésus aux Romains. Et ces derniers ont crucifié le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Vous voyez la question que je voudrais nous poser, nous, Église de Jésus-Christ. Nous, frères et sœurs en Jésus-Christ, est-ce que nous aussi, à notre tour, nous arrivons à discerner eh bien, les signes des temps actuels? Savons-nous dans quel temps nous sommes? Au-delà de ce Covid, au-delà eh bien, de tout ce qui s'accélère, regardez le journal télévisé. J'ai regardé hier soir le journal télévisé, mais je me suis dit, on annonce que des catastrophes, à part le foot, que des catastrophes. Et qu'on arrive, et quelqu'un dit encore, et arriver à discerner, mais quel temps nous sommes? Et là, la Bible encore nous donne quelques pistes. Regardez Éphésiens chapitre 5, verset 16. Ne le cherchez pas, je vais vous citer deux ou trois versets. Et la Bible nous dit par exemple, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On voudrait améliorer les choses, on voudrait encore se distraire, et puis essayer de mettre beaucoup de rire, beaucoup de... Mais les choses vont de mal en pire. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 nous dit, la fin de toute chose est proche. Alors vous, enfants de Dieu, vous, peuple de Dieu, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Et Dieu nous parle ce matin. Il nous demande de discerner. Ce n'est pas le temps de dire, mais quand est-ce que la situation redeviendra la normale? Vous avez vu, on est à la rentrée et ce n'est pas une rentrée tout à fait normale. Et où est-ce que ça va nous emmener? Dieu seul le sait, mais lui, il est sur son trône et il règne. C'est pour ça qu'on a eu raison de chanter que l'Éternel règne, bien sûr qu'il règne. Autre passage, Romains chapitre 13 et le verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous le savez, nous le savons, frères et sœurs. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tous ces événements qui nous entourent, ces accélérations, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit ici en Europe, en France, tout ça nous rappelle que Jésus est à la porte. Alors c'est vrai, les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, mais discernons que nous avons plus que jamais besoin de lever la tête et commencer à considérer que Jésus est à la porte et il viendra prendre son Église pour que eh bien, l'eschatologie puisse s'accomplir. On parle souvent de la fin du monde, la destruction de la terre. Et vous savez, il y a tellement d'événements avant la destruction de la terre. Il y a par exemple le millénium, il y a par exemple eh bien, la grande tribulation. Et je doute fort que l'Église eh bien, soit présente dans cette deuxième partie de la grande tribulation où il y aura les jugements littéralement de Dieu qui vont tomber sur la terre. Et Jésus a besoin de prendre son épouse qui a été graciée. Il n'y a pour nous aucune condamnation pour ceux qui sont bien sûr en Jésus-Christ. Et Jésus va eh bien, enlever, c'est pour ce qu'on appelle la parousie, va enlever son Église. Et nous allons le rejoindre dans les airs. Et là, pour ne plus jamais le quitter, que Dieu soit béni. Avez-vous cette espérance dans le cœur? Discernons-nous toutes ces choses? On a besoin, on l'a lu, de pouvoir se réveiller. On peut être assoupi, alors peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Une fois, j'étais dans une église et il y avait quelqu'un, et on le voyait, une personne d'un certain âge, et puis il commençait à s'assoupir. Et puis il prenait la tangente, c'était le cas de le dire. J'ai dit, mon Dieu, s'il vient tomber, mais la chute sera bizarre et drôle. Tu n'as pas permis, il y a un frère gentiment qui lui a dit, mon frère, réveille-toi. Et plaise à Dieu que le Saint-Esprit puisse venir et tapoter notre épaule et nous encourager à pouvoir nous réveiller spirituellement parlant. On est tous réveillés, bien sûr, physiquement, mais je parle, vous l'avez compris, bien sûr, le plan spirituel. Réveillés pour chercher la face de Dieu, réveillés pour nous sanctifier encore et encore, réveillés aussi pour pouvoir, même dans le contexte actuel, bien parler du Seigneur autour de nous. On va s'arrêter avec ce premier moyen, donc on a parlé des cinq sens, les sens naturels. Et ça, c'est à la portée de tous les êtres humains, chrétiens ou pas. Mais il y a aussi un autre moyen que Dieu met à notre disposition afin de développer le discernement, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que vous avez vos BIBLE entre vos mains? C'est important, c'est une arme, c'est l'épée de l'esprit. La Bible est un livre des plus spéciales. Il n'y a rien de magique dans la Bible en elle-même, dans le livre. Mais la foi que nous mettrons eh bien, à valoir en lisant avec sérieux la parole de Dieu, eh bien, nous donnera à voir notre foi grandir. La lecture et la méditation sérieuse de la Bible communiquent quoi? Elle communique également le discernement. Je l'ai déjà dit, Salomon, quand il a écrit le livre des Proverbes, il avait une intention. C'était de pouvoir donner beaucoup de sagesse à ceux et celles qui daigneraient prendre le temps de plonger le regard dans ce merveilleux livre. D'ailleurs, que je vous encourage à lire et relire. Mais nous découvrons aussi que eh bien, Salomon avait aussi le désir de pouvoir nous accorder du discernement tout en lisant ce livre. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 1, verset 4, où là où Salomon explique pourquoi eh bien, et la raison d'être de son livre, il va dire pour donner aux simples quoi ? Du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, etc. Mais on souligne, bien sûr, parce que c'est notre thème, pour donner au simple du discernement. Et je regrette qu'aujourd'hui, c'est un constat que je fais, je pense que vous serez d'accord avec moi, je ne suis pas le seul à pouvoir le faire, je regrette qu'aujourd'hui les chrétiens passent plus de temps avec WhatsApp, avec Facebook, avec quoi ? Aujourd'hui c'est TikTok, puis Instagram, pique et collégram, c'est des choses qui nous dépassent. On passe plus de temps dans tous ces réseaux sociaux que dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et ce qui fait que nous nous retrouvons avec des chrétiens qui, même après des dizaines d'années de conversion, n'ont pour la plupart jamais peut-être lu entièrement la Bible. N'ont jamais pris le temps d'une manière sérieuse, pour que ce n'est pas dans la longueur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y en a, ils lisent en long, en large la Bible, mais ils ne mettent rien en pratique. Or, c'est zéro. Mais jamais ils n'ont pris sérieusement le temps de connaître. Il faut d'abord connaître la parole de Dieu avant de prétendre aller à droite ou à gauche. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ces mêmes chrétiens qui négligent la parole de Dieu lorsque l'épreuve arrive. Lorsque le diable, parce qu'à un moment donné, le diable, il a son carnet, il a son calepin. Il passe, il donne les noms là. Il dit, maintenant, c'est à telle famille que je vais m'occuper. Et quand il vient frapper à notre porte, il ne frappe pas à la porte, c'est un voleur. Lorsqu'il vient trouver une faille, il se glisse, on est désarmé. Et on ne sait pas lui faire face. Pourquoi ? Parce que les armes dont nous avons besoin pour faire face à l'ennemi se trouvent dans la parole de Dieu. On peut essayer, prétendre le chercher chez X, chez Y, dans tel séminaire, dans tel... C'est dans la parole de Dieu, frères et sœurs, que nous allons trouver toutes les armes pour faire face à l'ennemi, pour être inébranlables lorsque l'épreuve va venir, lorsque nous serons ballottés comme les disciples sur la tempête, sur les eaux de la tempête. C'est la parole de Dieu qui sera encore nous secourir, qui sera nous rappeler les promesses que Dieu nous a laissées. C'est important que le disciple de Jésus-Christ, si tu t'appelles disciple de Jésus-Christ, tu as besoin de connaître, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression, au bout des doigts, la parole de Dieu. Et je m'englobe avec vous. On a besoin de la connaître. Et pas chercher peut-être un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps vraiment de plonger nos regards dans la parole de Dieu. La Bible est le seul livre qui nous vient du ciel. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si un jour vous montez au bureau, vous verrez plein de livres, des ouvrages extraordinaires. Mais tous ces ouvrages sont juste des déclinaisons de ce livre qui est venu directement du cœur même de Dieu, la Bible. Et cette Bible, elle est éternelle. Elle a pu braver même le feu et le temps, puisqu'on a essayé même ici en France de la détruire. Ils n'ont pas réussi. Il y a un gars qui a dit, vous verrez, dans 50 ans, il n'y aura plus aucune Bible ici en France. Le pauvre homme, quand il est mort, sa maison même est devenue un dépôt de Bible. Vous savez, la Bible, elle demeure éternellement. D'ailleurs, c'est elle qui va nous conduire pendant le millénium. D'après vous, quel code, quelle loi qui va régir ce millénium extraordinaire ou un temps de paix extraordinaire ? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous accompagner même dans l'éternité. Elle est immuable, elle ne change pas. Et elle demeure surtout éternellement. Il y a un certain Abraham Lincoln. Est-ce que vous le connaissez ? 16e président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit concernant la Bible ? La Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. Il dit waouh. Et puis il y en a un autre. Cette fois-ci, c'est un Français, Michael Lonsdale, acteur français. La Bible, c'est le livre des livres. Elle suffirait à nourrir la vie entière. Je ne sais pas s'il est chrétien, cet homme, mais il a dit vrai. Hein. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une nourriture pour notre âme, pour notre esprit, pour notre corps. Et tant que nous n'avons pas compris ces choses, on va courir, on va essayer de chercher la nourriture ailleurs. Pourtant, la nourriture, elle se trouve dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Et cet homme a vu juste quand il a dit, la Bible, c'est le livre des livres, elle suffirait à nourrir la vie entière. Si même dans votre bibliothèque, il n'y avait que la Bible, ce serait l'essentiel. Et ce serait juste, quelque part, j'ai envie de dire, juste suffisant. Un autre, Hans Rohrbach. Est-ce que vous le connaissez celui-là ? Je ne connaissais pas. Hein. Mathématicien. Il a dit, la Bible nous donne la connaissance ultime, même de ce que le savant ne peut connaître. Amen. Avec la Bible, on peut même connaître le présent, mais aussi l'avenir. Ouais, y a des gens qui vont aller voir les voyants, savoir leur avenir, mais ton avenir, il est tout tracé, il est écrit là. Et c'est à nous de le découvrir, en étant bien devant le Saint-Esprit, à plonger nos regards dans la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est ce qui nous donnera de grandir spirituellement. Vous connaissez ce passage que j'aime beaucoup personnellement, 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Je vais vous lire ce texte dans la version parole de vie. 1 Pierre 2, 2. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Comme des bébés qui viennent de naître. On a notre dernière, et je ne sais pas ce qui lui arrive, mais ces temps-ci, plus que d'habitude, elle réclame du lait. Mais elle ne regarde pas l'heure, elle. Elle n'a pas de montre. Alors, au beau milieu de la nuit, elle demande du lait, elle réclame du lait. Et je veux dire, parallèlement, on a besoin, comme des bébés nouveau-nés, désirer ce lait. Sans mélange. C'est pas édulcoré, c'est pas mélangé avec d'autres adjuvants. Non, c'est un lait pur, un lait sain, un lait qui est capable de fortifier notre foi, qui est capable de nous donner à aller de l'avant. Plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu et plus nous développerons, bien sûr, du discernement. Discernement par rapport à ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est vrai et par rapport à ce qui est faux aussi. Il y a, vous le savez, beaucoup de contrefaçons aujourd'hui. Il y a de faux évangiles, il ne faut pas qu'on se voie la face. Il y a des semblants d'évangiles, mais ce n'est pas l'évangile. Et celui qui n'aura pas plongé d'abord les regards de la parole de Dieu ne saura pas discerner la subtilité qu'il y a. Il y a comme des routes qui sont parallèles, mais quand on regarde au loin, eh bien elles finissent par s'écarter. Mais ce qui est important, c'est d'être sur le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Il a dit il est le chemin, la vérité et la vie, mais il a dit aussi qu'il est la parole. La parole qui s'est faite chair. Et tant qu'on demeure dans cette parole-là, la Bible, il est même question, je l'avais dit la dernière fois, que plusieurs chefs religieux voulaient modifier, mettre au goût du jour la Bible. Vous vous rendez compte ? En expliquant que, voilà, par rapport à certaines convictions aujourd'hui, certaines choses qu'ils mettent en avant dans ce monde, eh bien, il faudrait modifier. Et je vois la chose arriver très rapidement. Mais nous restons fidèles, attachés à cette parole, celle qui va nous donner plus que jamais du discernement. Vous savez, que faisaient les chrétiens de la Bible, les chrétiens de la ville de Bérée plutôt, lorsque Paul leur annonçait l'évangile ? La ville de Bérée, qu'est-ce qu'ils faisaient ces chers chrétiens qu'on retrouvera dans le ciel ? Qui a répondu ? C'est Serge. On va le lire, acte 17, verset 11. Vous voulez savoir comment développer notre discernement ? Il y a des choses, des clés toutes simples. Maintenant, on veut compliquer la chose, on veut aller là-bas, on veut payer, on veut machin. Mais c'est simple. Suivons l'exemple de ces Juifs. Ces Juifs qui ont reçu avec des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, la parole de Dieu qui était annoncée par la bouche de l'apôtre Paul. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour faire quoi ? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mon frère, ma sœur, on te dit ça avec une belle éloquence, avec une belle voix, avec une belle intensité, etc. Mais analyse, même ce que je suis en train de vous dire là, vous êtes en droit d'analyser. Et si un jour je dévie de la parole de Dieu, mais prenez vos deux jambes à votre cou et prenez la vol. Il est important pour nous de rester fidèles à cette parole. Et c'est cette même parole qui va nous permettre de pouvoir discerner en retour si un enseignement est biblique ou pas, si un enseignement est scripturaire ou pas, si un enseignement vient de Dieu ou pas. Mais pour cela, il nous faut impérativement nous nourrir de la parole de Dieu. Par la méditation de la Bible, Dieu peut même nous aider à discerner et à comprendre les temps et les circonstances qui nous entourent. Peut-être y a-t-il des questions ? Mais Seigneur, pourquoi tu as permis le Covid ? Qu'est-ce qui nous arrive là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Parce que c'est ça, les questions que nous devrions nous poser. Quelle attitude je dois, quelle réaction dois-je avoir face à ce que je suis en train de vivre ? En tout cas, il y en a un qui a compris que dans la Bible, il pouvait connaître les temps et les circonstances, il pouvait connaître les signes des temps. C'est notre ami Daniel. Alors qu'il était en captivité dans ce pays éloigné, c'est-à-dire Babylone, on se rend compte que cet homme qui était très fidèle, vous savez qu'il avait pris la résolution de ne pas se souiller par les mains du roi, mais il avait d'autres résolutions aussi. C'était un homme qui avait constamment la Bible avec lui, j'ai dit la Bible. Il n'avait que quelques parchemins de l'Ancien Testament, quelques livres prophétiques de certains prophètes comme Jérémie. Et nous voyons Daniel qui, à un moment donné, en lisant justement ces livres prophétiques, bien de l'époque, a lu par exemple le livre de Jérémie et a découvert que c'était le temps pour le peuple d'Israël de quitter maintenant la Babylone et de revenir sur la terre promise, c'est-à-dire Israël. Il n'aurait pas lu la parole de Dieu, il n'aurait pas su que c'était le moment pour lui qu'il puisse chercher Dieu. D'ailleurs, après cette révélation qu'il a reçue, cet homme s'est mis à pouvoir chercher Dieu par le jeûne et la prière. Et Dieu lui a porté de telles révélations qui, jusqu'à maintenant, deviennent, pour certaines parties, encore des mystères pour nous. Il a reçu une grande révélation. Daniel est le pendant de ce que peut nous annoncer le livre de l'Apocalypse. Ils sont jumelés, ils nous annoncent encore les choses futures, les choses présentes, mais les choses qui sont, à venir. Alors, frères et sœurs, laissons la parole de Dieu développer notre discernement. Je dis, quelqu'un qui connaît la Bible au bout des doigts, c'est un homme qui va porter beaucoup de fruits. C'est un homme qui sera inébranlable. C'est un homme qui connaîtra ses droits devant le diable et devant toutes les puissances des ténèbres. C'est quelqu'un qui marche la tête haute. C'est quelqu'un qui sait où il va et sait d'où il vient. C'est quelqu'un qui voit sa foi être affermie et avancer jour après jour. Alors laissons cette parole développer plus que jamais notre discernement. Et je voudrais terminer avec un troisième et dernier moyen. On a vu qu'il y a nos sens naturels. Il y a la parole de Dieu et peut-être s'attarder sur un dernier moyen et peut-être ce dernier moyen, et c'est pas peut-être, c'est sûr, ce dernier moyen, il concerne particulièrement les chrétiens. Pourquoi ? Parce que j'aimerais vous parler de la personne du Saint-Esprit. Voilà encore un moyen qui nous permet de pouvoir développer notre discernement. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur, avant de repartir vers son Père, a dit qu'il nous enverrait un autre consolateur. Par contre, celui-là resterait constamment à nos côtés, pour nous accompagner, pour nous guider. Et cet autre consolateur, c'est ni plus ni moins la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et nous lisons ensemble, je vous laisse le temps de le chercher, 1er épître de Corinthiens, au chapitre 2, et du verset 11 à 15. Alors je ne sais pas quelle version vous avez, certainement pour la plupart la version Louis II, mais je vais vous lire ce texte dans la version Darby. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11 à 15. Et nous lisons à partir du verset 11, bien sûr. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais nous, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Verset 14. Or l'homme animal, ou d'autres versions disent l'homme naturel, l'homme sans Dieu, l'incroyant, l'homme animal, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses. Mais lui n'est discerné par personne. Alors tout comme le révèle, bien sûr, la fin de ce texte, pour discerner les choses divines, les choses spirituelles, il nous faut plus que jamais l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui nous rend spirituels. On était homme animal, homme naturel, un homme, une femme, un croyant qui vivait sa vie sans Dieu. Et puis jusqu'au jour où on a rencontré le Seigneur et il nous a transformés. Et il a fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Et il a régénéré, renouvelé notre esprit. Et avec ce renouvellement du Saint-Esprit, nous pouvons arriver à discerner les choses qui concernent le royaume des cieux. C'est pour ça que j'aime à le dire. Lorsqu'on attire des amis convertis au Seigneur, commençons par le commencement avec eux. Attirons-les vers le Seigneur, conduisons-les vers le Seigneur, encourageons-les à pouvoir se réconcilier avec Dieu avant, par exemple, de leur expliquer ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, avant de, parce qu'ils ne vont pas comprendre ces choses. Il faut l'Esprit de Dieu pour recevoir ces choses et pour pleinement, surtout, eh bien, les vivre. Et on a d'ailleurs l'exemple de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Vous savez qu'il y avait environ 120 qui étaient rassemblés dans cette chambre haute, le jour de la Pentecôte. Et puis il y avait plein de Juifs qui sont venus de tous les pays environnants pour fêter justement la fête de la Pentecôte. Et quand ils ont vu que le Saint-Esprit était descendu sur tous ses disciples, ils n'ont pas pu comprendre, interpréter, finalement, ils n'ont pas pu discerner ce qui s'était passé. D'ailleurs, ils disaient, mais ces gens, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. C'est pas possible. Mais pourtant, ce jour-là, ces environ 120 ont connu quelque chose d'extraordinaire. Une puissance est venue sur eux et leur a donné d'être des puissants témoins, eh bien, dans leur génération. Pour ça, je le dis, lorsqu'on devient enfant de Dieu, par contre, eh bien là, eh bien on peut comprendre ces choses, on peut pleinement les appréhender. C'est pourquoi Paul donne ce conseil que nous ferions bien de prendre en compte quand il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21, il nous est dit, ne le cherchez pas, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. On peut quelquefois s'empresser et dire, mais tiens, ça c'est bizarre, ça c'est pas comme d'habitude, etc. Mais le Saint-Esprit nous emmène là où il veut. Et il peut nous surprendre par une manifestation. Plaise à Dieu qu'un dimanche matin, je ne sais pas, quelque chose de glorieux, eh bien, se passe. Alors, imaginez-vous, c'est environ 120, quand ils ont vu ces flamèches de feu descendre sur leur tête, s'ils n'étaient pas spirituels à ce moment-là, eh bien, ils ne pouvaient pas pleinement appréhender ces moments-là. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit. Par contre, il donne ce conseil, verset 21, mais examinez. Et j'ai regardé pour vous, eh bien, quand on regarde dans le texte originel grec, eh bien, examiner, c'est le verbe dokimazo. Et dokimazo veut dire discerner, apprécier, éprouver, sonder. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de nous dire, mais finalement, discerner toutes choses. Et puis s'il y a un peu de naturel, un peu de... Retenez juste ce qui est bon. Amen, frères et sœurs. On ne veut pas que le Saint-Esprit soit éteint parmi nous, hein, mais qu'il soit manifeste, et qu'il soit manifeste au travers, par exemple, des dons spirituels. Je veux terminer en rappelant aussi que le Saint-Esprit est celui qui nous permet de discerner la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, connais-tu la volonté de Dieu à ton égard? Tu viens dimanche après dimanche, et tu rentres dans une espèce de routine, mais... La Bible est claire, elle dit, il a des projets pour chacun d'entre nous, projets de paix et non de malheur. Et Dieu ne veut pas que tu t'installes dans une routine, tu t'assoies presque à la même place, etc. Mais Dieu veut te donner à vivre quelque chose qui va te donner eh bien, de l'enthousiasme jour après jour. Il a des œuvres, des plans, des projets bien précis pour ta vie. Et pour cela, on a besoin de laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, renouveler notre esprit et nous aider à pouvoir discerner, à comprendre, appréhender la volonté de Dieu à notre égard. Regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2. On en a bientôt terminé. Romains chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul dit, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et étrangement, mais en tout cas le verbe discerner ici, c'est le même mot grec qu'on a vu tout à l'heure, dokimazo, qui veut dire discerner, apprécier, éprouver, sonder. On a besoin de discerner là où Dieu veut nous emmener. On a besoin de discerner dans nos vies, dans la vie peut-être des membres de nos familles, dans la vie de notre église, etc. Là où Dieu eh bien, veut nous conduire. Sans le Saint-Esprit, il est quelquefois impossible de discerner la volonté de Dieu pour nos vies. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça qu'il est dit aussi, vous prenez juste ce texte, ne le cherchez pas, Éphésiens 5, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de nous dire, discernez quelle est la volonté du Seigneur. Oui, il te fait passer par ce chemin-là, mais il a un but bien précis. Alors comprends-le, discerne-le. Et ne sois pas inconsidéré. Vous savez, on peut être inconsidéré, hein? On peut être même fâché avec le Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Ah, il y a cette huile qui m'est tombée, et puis une deuxième, une troisième. Seigneur, tu ne m'aimes pas ou quoi? mon frère, ma soeur, ne sois pas inconsidéré. Mais comprends, discerne quelle est la volonté de Dieu à ton égard. D'ailleurs, le verset 18, le verset suivant, nous invite d'ailleurs à être remplis du Saint-Esprit. Et dans la mesure où on sera rempli du Saint-Esprit, on saura bien réagir. Même quand le Seigneur nous fait passer la vallée de l'ombre de la mort, on saura bien réagir. Seigneur, que ton nom soit béni en toutes choses, en toutes circonstances. Nos cinq sens naturels ne suffisent pas dans certaines situations pour connaître la volonté divine. Et j'ai des exemples pour vous. Quand Samuel est venu pour remplacer le roi déchu, c'est-à-dire le roi David, il est arrivé dans une maison, celle de ce fameux Isaïe. Et quand il a vu le premier fils venir au-devant de lui, ce fameux Éliab, intérieurement, il a dit « Ah ben c'est lui. C'est lui que Dieu veut. Ah, c'est qu'il n'y a pas photo. Regardez ses muscles. Regardez comme il est costaud. Il est grand, il est beau. Il a des yeux blancs en plus. Une espèce de Gaulle de l'époque. » Mais la voix du Saint-Esprit va lui dire « Non, c'est pas lui. Pourquoi ?» Parce que nous, on regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et le Seigneur avait en pensée, bien sûr, le petit jeune blond qui était là. D'ailleurs, on ne l'a même pas daigné penser à ce qu'il vienne se présenter devant le prophète. Même son papa ne pensait même pas qu'il allait être choisi par Dieu. Si on regarde uniquement avec nos sens, on risque de se perdre. On raisonne, on a nos calculs à nous, etc. Lot avait ses calculs, hein, il voulait la plaine. On a besoin de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Le sacrificateur Élie a pensé qu'Anne, l'épouse, vous savez, d'Elkana, a pensé qu'elle était ivre, alors que cette femme n'était pas du tout ivre, elle était en train de prier. Fois, on peut manquer de discernement. On voit un frère, une sœur, on ne comprend pas son attitude, etc. Mais le Saint-Esprit est capable de nous aider à discerner qu'est-ce que la personne est en train de vivre. Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser? On est facile pour pouvoir pointer du doigt et juger. Mais on a besoin de discerner. Peut-être même que le Saint-Esprit nous donne des paroles de connaissance pour savoir, pour comprendre et pour savoir finalement réagir face à ces situations. Jésus, bien sûr, a discerné le plan de Dieu quand il est venu sur terre. À aucun moment le Seigneur était là en train de se gratter la tête disant « Mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Il savait exactement les temps, les moments fixés par le Père. Pour sa propre vie. Alors à côté de lui, tous ses disciples, eux par contre n'étaient pas trop parfums. Ils étaient, j'ai envie de dire, au radar, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Ils n'avaient rien discerné de ce qu'était le plan du Père par rapport à son fils Jésus. Et ce n'est que plus tard, quand ils ont été remplis de la révélation, la personne du Saint-Esprit, qu'ils ont, leurs yeux se sont éclaircis, ils ont compris la volonté de Dieu. Sans la clairvoyance du Saint-Esprit, nous pouvons complètement passer à côté de la volonté de Dieu, à notre égard. D'où l'importance de toujours nous recommander à Dieu, mais aussi d'inviter l'Esprit de Dieu à toujours nous conduire dans la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Que dire en conclusion, si ce n'est que nous sommes tous invités ce matin à pouvoir dire « Mais Seigneur, accorde-moi ton discernement ». Quelquefois, je prends des voies, je ne sais pas trop, je tâtonne. C'est vrai, tant qu'on n'a pas Dieu, on tâtonne. Mais maintenant, on a cet avantage, nous, chrétiens. On a l'Esprit de Dieu qui est capable de nous montrer le chemin à suivre. La Bible dit, et elle est claire dans l'évangile de Jean, il nous est dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et si on est assez attentif à la voix du Saint-Esprit, il nous conduira dans la volonté de Dieu. Il nous conduira dans ce qui est bon, agréable et parfait. Et on l'a vu ensemble, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a laissé un autre moyen, c'est la parole de Dieu qu'on a à notre disposition et on a besoin de la connaître. Quand je pense que nos amis juifs, très jeunes, on invite les enfants à pouvoir presque apprendre par cœur des pages, des pans entiers de la Torah pour qu'ils apprennent ça par cœur. Et pourquoi nous ne le ferions pas autant ? Apprendre par cœur la parole de Dieu, nous imprégner de cette parole, la ressasser dans nos cœurs. Plus nous connaîtrons la parole de Dieu, plus, alléluia, notre foi sera inébranlable et ferme devant Dieu et nous aurons du discernement pour comprendre les temps et les circonstances. Et puis, quelque chose de très simple, le Seigneur a doté l'homme, tous les hommes, de cinq sens. À nous de pouvoir les développer. Seigneur, aiguise ces sens. Aiguise-les par ta parole et par la puissance de l'Esprit de Dieu. et que nous soyons tous des hommes et des femmes avec du discernement. Et ce discernement va nous accompagner lorsque nous serons au travail, va nous accompagner lorsque nous serons en famille, lorsque nous serons seuls. On aura ce discernement, on ne réagira pas comme les autres pourraient le faire, d'une manière charnelle. Mais on aura d'autres comportements, on aura des comportements spirituels parce qu'on sera animé par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Discernement aussi pour comprendre que Jésus est à la porte. Il n'y a pas photo et il revient bientôt. Mais il prendra uniquement ceux et celles qui auront fait la paix avec lui. Ceux et celles qui continueront à marcher sur le chemin de la sainteté. Ceux et celles qui seront fin prêts. Dieu viendra chercher une église, une épouse qui est irrépréhensible, sans tâche, frères et sœurs. Et on arrive quelquefois dans notre esprit à raisonner. Penser que oh, ça va passer ça. Oh, c'est rien. J'ai pas volé un bœuf. C'est juste un œuf. Mais c'est du vol. Et à cause de cela, on peut être empêché et privé bien de l'accès du royaume des cieux. Frères et sœurs, prions ensemble que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Seigneur, merci pour ta parole. Et plus que jamais, nous voudrions être, Seigneur, ce peuple qui est à l'écoute, Seigneur, de ta voix. Et ce matin, tu as voulu nous parler, Seigneur, de pouvoir développer ce discernement jour après jour. C'est vrai, on est bombardé, on est agressé, c'est le cas de le dire, Seigneur, par toutes sortes d'infos, Seigneur, Père, quelquefois toxiques. Et même dans le milieu chrétien, c'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure de faux évangiles. Seigneur, donne-nous du discernement en tout point. Donne-nous plus que jamais à lever la tête et à regarder, Seigneur, ton retour imminent, Seigneur. Et nous ne voudrions pas ce matin nous tromper par de faux raisonnements. Et Seigneur, plus que jamais, chercher ta face. Seigneur Père, mon Dieu, nous implorons ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, mon Dieu, l'envoi du Saint-Esprit n'était pas une option, mais une nécessité, Seigneur, pour ton Église, afin qu'elle soit fin prête, Seigneur, parce que tu es à la porte et tu reviens bientôt. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses, aide-nous à les vivre et à les mettre en pratique. Bénis mes frères et mes sœurs ici présents, qui aient des réponses, même pour ceux qui seront, Seigneur, à l'écoute de ce message, au travers, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, oui, des réseaux sociaux, à travers Internet. Merci pour ces moyens, Seigneur, qui puissent être interpellés, Seigneur, que nous ayons tous du discernement. Donne-nous avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, Seigneur. Parce que, Seigneur, mon Dieu, bientôt, bientôt, Seigneur, tu viendras prendre ton Église. Tu viendras nous chercher et nous voudrions pas, Seigneur Père, rester pour compte. Au nom de Jésus, amen. Et amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.